Sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Aujourd'hui, dans les studios de Radio Centre-Ville, nous avons Malika.
Bonjour.
Pascal.
Allô.
Franck.
Salut.
Et moi-même, Nicolas. Vous l'avez noté, il y a du changement dans l'air et justement, cette émission aura pour thème ne pas avoir peur du changement. Avez-vous peur du changement, vous?
Oui, un peu.
Ah oui? Pourquoi?
Moi, par exemple, parce que bien que je dirais non, j'ai pas peur puis tout, j'ai vécu beaucoup de changements dans ma vie ces dernières semaines qui sont très intenses. Puis quand je prends du recul maintenant à voir ces changements-là, oui, j'ai eu de la peur. Puis même cette peur-là psychologique, parce que c'est une peur, c'est pas physique au départ, mais elle va se transformer en un problème physique que moi, personnellement, j'ai vécu. Donc, oui, j'ai peur un peu du changement. Toi, Pascal?
Oui, j'ai peur du changement, mais ce n'est pas le changement en tant que tel. C'est la peur de l'inconnu, le fait de ne pas savoir ce qui va arriver. Parce que je suis toujours quelqu'un qui a des plans B, C, D, E, jusqu'à Z même, mais j'ai toujours peur que si je tranche une étape et que je suis insécure, le changement n'ira pas avec moi. Donc, je me suis dit, je pense que c'est ça qui me fait peur, l'inconnu.
Tu sais que dans le corps humain, il y a un processus naturel qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est la résistance au changement. Alors, quand on a peur, justement, comme des peurs dont vous parlez, peut-être quand on les analyse, on se rend compte que ce n'est pas des peurs. En fait, c'est peut-être juste l'homéostasie. Le corps humain, il est fait pour être stable, autant le mental que tout. Alors, quand il y a un changement dans la vie, lui, il dit, hey, tu changes. Wow! Il dit pas est-ce que c'est bon ou c'est mauvais. Il s'en fout, lui. Il veut juste pas que ça change parce que la nature est une habitude. On regarde les cycles sur la planète, dans l'univers, ce sont des habitudes. Il n'y a pas vraiment de conscience nécessairement dans les processus naturels.
Mm-hmm. Mais moi, comme des fois, je l'accorde parfois à... pas une question... Avant que tu aies dit
Homéostasie.
L'homéostasie, moi, je l'accorde plutôt à mon mental qui il veut pas... Parce que là, quand on est dans le changement, on est dans une phase d'inconfortabilité pour le mental. Le mental se dit, mais là, et où ma zone de confortabilité, là? Tu sais, je veux revenir à ça dans mon sofa, là, avec des coussins. Fait que voilà un peu, moi, je pensais, mais c'est un bon... C'est un bon élément que tu viens de dire parce que je ne savais pas du tout ça.
Mais tu vois, je pense qu'il faut s'entraîner justement à ne plus avoir peur et à s'ouvrir. Quand on est ouvert, là, moi, personnellement, je n'ai rien à perdre. J'ai encore à 38 ans, je n'ai pas de maison, je n'aurai pas d'enfant. Moi, je suis consacré complètement à mon œuvre. Alors, je n'ai rien à perdre. Il n'y a rien qu'on peut m'enlever parce que j'ai trouvé le bonheur en moi. Et puis, même si ma maison brûlait, c'est tout. Si je perdais tout physiquement, je serais capable de tout réécrire mes livres. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je serais capable de le refaire parce que ça vient de l'intérieur. Donc, c'est peut-être là les peurs. Là, j'imagine que la peur du changement vient de quelqu'un qui n'est pas encore centré, qui n'a pas trouvé sa stabilité à l'intérieur.
Alors, en fait, je pense que même si quelqu'un est centré, je ne sais pas si une personne peut dire « tiens, je n'ai plus de peur » parce que la peur, des fois, ça peut te prendre par surprise. Par exemple, une situation complètement imprévue et pof, là, là. Et puis après, c'est qu'est-ce que tu fais de cette peur? C'est pas le temps de faire d'avoir peur, c'est qu'est-ce que tu fais de cette peur? C'est-à-dire, est-ce que cette peur, tu lui laisses prendre le dessus ou est-ce que tu apprivoises cette peur pour le transformer en autre chose? Parce qu'en fait, on s'en fout de la peur. La peur, elle est pas très, elle n'a d'importance que ce que tu lui accordes comme importance. Et donc, une fois que tu as pris, moi, je trouve ça même stimulant. D'avoir peur. Je trouve ça bien dans le sens où, ah, tiens, c'est un petit indicatif qui te dit, ah tiens, tu sors de ta zone de confort, comme tu venais de le mentionner, Malika. Et puis, ah, ok, ah tiens, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que tu aurais peur du défi? Est-ce que, enfin bref, c'est l'ouverture pour peut-être un réajustement, une centration, je ne sais pas si le terme est approprié, mais en tout cas se centrer. et faire le point avec ce que tu ressens. Est-ce que tu ressens c'est sain? Est-ce que c'est malsain? Est-ce que c'est quelque chose qui va te donner des munitions pour avancer? En fait, c'est un ingrédient, un petit peu comme, comme du sel et du poivre. Et avec ce sel et du poivre, bah, si tu en mets trop, ta recette ne va pas être très bonne. Mais par contre, si tu sais bien le doser, ça risque de te faire une bonne pizza, en fait. C'est un peu ça, l'idée.
Mais ultimement... C'est possible de ne plus avoir peur et c'est lorsqu'on atteint l'éveil. Lorsqu'on s'éveille, on n'a plus peur. On n'a plus peur de la mort. On n'a plus peur de la solitude. On n'a plus peur de rien parce que ceux qui ont lu le livre des morts tibétains ont vu que la principale cause de réincarnation, selon les Tibétains, c'est que la personne a peur de la lumière blanche qui est elle. Elle a peur de cette lumière. Et vous savez que quand on reçoit le soleil d'après-midi en plein visage, ça fait mal, la lumière forte. Donc, c'est un gros problème. Alors, moi, je dirais, il faut l'apprivoiser, oui, mais il faut apprendre à ne plus avoir peur, à l'observer. La peur peut passer dans la personne, mais il ne faudrait pas que ça... C'est les émotions, le problème. C'est les émotions qui font que ça devient comme une montagne, alors, comme on dit, une tempête dans un verre d'eau.
Ouais. On ne prend même pas le temps aussi de prendre conscience que juste tout simplement prendre l'outil en main, tu sais, ou dans la pensée à dire là j'ai peur, qu'est-ce que je peux faire avec, tu sais. Si moi par exemple, tu sais, quand j'ai peur, je suis une personne typiquement que je vais juste être submergée par cette peur. J'apprends à ne pas avoir cette spontanéité là de me lancer dans quelque chose que peut-être je vais regretter ou que je vais me dire ouh boy, j'ai passé dans un gros virage là que j'aurais peut-être pas dû là.
Et c'est bon aussi de se laisser justement aller. Et des fois, oui, effectivement, il y a des risques. C'est un petit peu comme que ce soit dans une relation amoureuse, se lancer des fois, tiens, tête baissée, ou dans un projet. Mais c'est là où on en revient par rapport au ressenti. C'est non seulement d'apprivoiser le truc, mais aussi de laisser les émotions, mais pas de se laisser envahir par les émotions, mais d'être à l'écoute et d'être observateur de ses propres de ses sentiments, c'est de marrant, ses ressentis. Ouais. À partir du moment où on est plus observateur, là, après, c'est un petit peu comme un train qui passe. Le train, tu vas pas courir après, tu le laisses passer, et ça permet bah, justement d'avoir un certain recul. Mais des fois, ça peut être tellement bon aussi d'y aller à l'instinct, de se dire « Ah oh, ouais, j'y vais, ça me plaît, là ». C'est bon aussi, ça.
Oui. Mais c'est vrai que si tu ne prends pas de risque, tu ne sauras jamais. C'est un fait. Mais la question que je me pose souvent, est-ce que j'ai besoin de ce changement-là? Ça, c'est la question que je me pose souvent. À quoi ça va m'apporter plus tard? Qu'est-ce qui va arriver plus tard si je prends un risque au changement-là? Mais c'est sûr que si je ne me lance pas, je ne le saurai jamais. Donc, c'est ça qui fait, c'est vraiment bien de se laisser aller, mais il y a toujours cette hésitation de oh, « est-ce que je devrais ?»
Par rapport à ça, c'est surtout vis-à-vis du ressenti. Du ressenti, pas en tant que sentiment qui vous submerge, mais du sentiment. Je pense que on sait. L'humain, c'est-à-dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, il le sait. C'est juste qu'au niveau intuitif, c'est quelle porte on laisse à cette intuition, quel crédit on apporte à cette intuition. Parce que la personne, quand tu sais, tu veux faire un truc, tout semble bien sur le papier, et puis au final, après, tu te rends compte que non, c'est bancal, mais qu'il y avait une petite voix qui t'a dit dans ta tête « ouais, mais ». Tu sais, il y a toujours des fois des « ouais, mais ». Ça a l'air bien, oui, mais.
Mais le changement fait partie du monde terrestre. Hein. On ne peut pas mettre les freins sur cet aspect. Il faut, à mon avis, suivre l'énergie. Comme on dit « follow your bliss », suivre le Tao, suivre la voie qui est tracée par ton être. Si on met les freins, des fois, c'est là qu'on se ramasse très loin de notre centre. Combien de gens voulaient... Moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui voulaient être danseuses. Et leur père lui a dit « Non, tu devrais être quelque chose d'autre. » Mais l'emploi qu'ils ont fini par choisir est un emploi extrêmement masculin. Et cette femme n'est pas heureuse. Elle est rendue à 40 ans, 50 ans, puis elle n'a pas encore réalisé son rêve d'être danseuse ou d'être professeure de danse, en tout cas d'être dans le domaine de la danse. Et puis, combien de gens j'ai rencontrés comme ça qui sont passés à côté? Et moi, pour moi, c'était inconcevable parce que j'ai trouvé très jeune ma vocation. À 10 ans, je savais que j'étais artiste, que je faisais de la bande dessinée. Même si mes parents, surtout mon père qui est très rationnel, m'a toujours dit que ça allait être un à côté. Moi, quand j'ai fini l'école, j'ai dit non, ça va être en plein centre. Et puis, ça va être ça, le centre de ma vie. Et puis, je me suis consacré à ça totalement.
Oui, par rapport à ce que tu viens de dire pour ton anecdote, elle est très intéressante. Ça me fait rebondir sur une éditrice américaine qui s'appelle Louise Hayes, qui doit avoir 80 ans, qui a fait une maison d'édition qui s'appelle ADA Édition, je crois, et qui a beaucoup de succès, qui est une sommité dans son domaine. Et Louise Hayes mentionnait à un moment que quand elle était petite, elle voulait être danseuse. Et je ne sais plus, enfin, comme tu viens de mentionner, il y a plein de personnes qui lui ont dit « mais non, c'est ridicule, hein. » Et donc, elle ne l'a pas fait. Sauf que elle a décidé qu'elle allait danser un jour. Et elle l'a fait, mais je crois qu'elle devait avoir genre 70 ans. Et genre à 70 ans ou à 75 ans, ou en tout cas un âge très avancé, elle a réalisé son rêve qui était de danser. Et ça, je trouve ça merveilleux. Parce que l'âge, bah là, c'était une anecdote. Et elle a été jusqu'au bout de son rêve.
On peut tout accomplir à n'importe quel âge.
Exactement. En effet.
D'ailleurs, le prochain groupe, Aurel San, ça me semble assez jeune, et la chanson s'appelle Changement. Et vous allez te sourire. Et on vient après la pause avec ce thème, ne pas avoir peur du changement.
Putain, plus j'avance, plus je grandis. Plus je comprends rien. Les sites de poules, c'est comme la vraie vie. T'attrapes des virus. Quand j'étais petit, y'avait pas d'internet. On traînait dans les abribus. Ouais. Fallait attendre dimanche soir pour voir des filles nues. Hey. Depuis, je me fais whiz en moins de 5 minutes avec Imule. On trouvait jamais de meufs, on traînait qu'entre testicules. Maintenant, les gens se regroupent dans les champs pour prendre des pilules. En boîte, la CC circule, les pieds des gesticules. Les particules sur les petits pulls, c'est pas des pellicules, putain. On dirait que ça suffit plus de fumer des spliffs. Ma génération Game Boy sniff plus de lignes qu'à Tetris. Puis qu'on préfère les paquets de clopes aux paquets. Les sports d'équipe partent en vrille, y'a des crises, y'a Memphis. Maintenant les radios se torchent avec la playlist. Maintenant faut passer sous le bureau pour qu'on passe tes disques. Plus la carotte est grosse, plus l'auditeur écarte les cuisses. Le top album 2006, c'est la banane d'Elvis. Les vieux comprennent pas ce qui se passe dans la tête des jeunes. Ils sont pas élevés par la télé, par la PlayStation. Ils comprennent pas à quel point on est fêlés. Ils connaissent pas internet, les boîtes, les grecs, les DVD. Les vieux comprennent pas ce qui se passe dans la tête des jeunes. Ils sont pas élevés par la télé, par la PlayStation. Ils comprennent pas à quel point on est fêlés. Ils connaissent pas le rap, les portables, le shit, la DSP. Les mecs fashion sont plus gainés que la moyenne des phoques. Les vieux rêvent d'être morts, sont nostalgiques de la bonne vieille époque. Les jeunes sont complètement paumés donc ils prennent des drogues. Les plus jeunes sont cons, sont bons qu'à faire des blogs. Même pour draguer, faut que tu connaisses les codes. Est-ce que tu voudrais bien me sucer sur MSN? Lol, c'est plus qu'un effet de mode, c'est la doctrine des écoles. T'es personne si t'as pas une bête de somme et téléphone. Les petits croient que la télé c'est la réalité. Mais leurs stars préfabriquées retournent vite à la précarité. Maintenant les meufs portent du Vuitton, ont des grosses lunettes dorées. Avant c'était pour les vieilles putes blondes décolorées. Les gars s'habillent comme des meufs et les meufs comme des chiennes. Et kiffent les mecs efféminés comme si elles étaient lesbiennes. Maintenant tous les centres-villes de France c'est les mêmes. Les mêmes putains de snacks, McDo, Footlocker, Célio, Zara, H&M. Les médias lâchent les mêmes mythos. Si on mord à l'hameçon c'est parce qu'on soit trop d'informations à la seconde. Avant j'achetais les sons, j'écoutais même ceux que j'aimais pas. Maintenant j'ai 40 gigas d'MP3 que j'écoute même pas. Tu vas rester sur la touche si tu bouges trop lentement. C'est la course, on a tous du mal à suivre le changement. Poursuivre le mouvement c'est du taf à plein temps. J'suis en retard, toujours en retard, j'suis en retard, en retard. Tu vas rester sur la touche si tu bouges trop lentement. C'est la course, on a tous du mal à suivre le changement. Poursuivre le mouvement c'est du taf à plein temps. J'suis en retard tout le temps comme cette salope de lapin blanc. Les vieux comprennent pas ce qui se passe dans la tête des jeunes. Ils sont pas élevés par la télé, par la PlayStation. Ils comprennent pas à quel point on est fêlés. Ils connaissent pas internet, les boîtes, les grecs, les DVD. Les vieux comprennent pas ce qui se passe dans la tête des jeunes. Ils sont pas élevés par la télé, par la PlayStation. Ils comprennent pas à quel point on est fêlés. Ils connaissent pas le rap, les portables, le shit, la DSP.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui, ne pas avoir peur du changement. Vous avez d'ailleurs remarqué qu'on a deux nouvelles voix. Jackie et Robert ont senti le besoin de changer. Eux autres aussi voulaient retourner vers d'autres projets comme écrire un livre, travailler sur un film. Alors, nos deux nouvelles aujourd'hui, Malika et Pascal, vont faire partie de l'émission pour le plus longtemps possible, nous espérons. Et
pour toujours.
Parce qu'on n'aime pas le changement. On a peur du changement. Alors moi, j'ai réfléchi sur le sujet et je me suis rendu compte que c'est une question éternelle dans la philosophie. Il y a Héraclite qui a parlé qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même lac, dans le même fleuve, je veux dire. Et il y avait Parménide, au contraire, qui disait « rien ne s'opère, rien ne se crée ». Alors, au niveau du changement, il y a deux écoles. Il y en a qui pensent que tout change, d'autres qui disent que non, rien ne change. Moi, je suis plutôt dans le paradoxe. Je crois que c'est les deux en même temps. On est dans une époque, on dit que on est dans une époque de changement, mais c'est des gadgets. Moi, je ne crois pas qu'on change. Il n'y a rien qui a changé aujourd'hui. C'est juste à la croûte qui est changée, là. Mais en fait, on est encore dans la pensée judéo-chrétienne, matérialiste, capitaliste. Oui,
Malika. Moi, je pense qu'on parle beaucoup là, autour du mot perception, dans le fond. Je pense que oui, il y a un paradoxe. Moi, je vis dans le paradoxe aussi, je suis d'accord. Mais que tout ce qui change, dans le fond, c'est la perception. C'est ta pomme que tu as devant toi dans la main. T'sais. Qu'elle soit rouge, là, tu deviens daltonienne du jour au lendemain, là, elle ne sera plus rouge pour toi. Là. Ta perception change. C'est un peu exagéré comme exemple, mais pourtant, c'est vrai. Il y a certaines choses que, par exemple, on ne pourra indéniablement pas ignorer dans le sens que, oui, il y a eu une évolution dans notre société 2013, tu sais, qu'il y a eu, que si on compare dans ces 20-30 ans auparavant, mais la perception a toujours, je trouve, c'est un bon détail à ne pas oublier, là.
Parce que si on n'est pas centré, c'est que moi, pour moi, le bonheur, c'est quelque chose qui est permanent. C'est-à-dire un état d'être qui ne change pas. Donc, si on est dans la permanence, on pense à cette idée, on se rend compte que les choses changent en apparence, mais moi, je ne crois pas à l'évolution, par exemple. Je ne crois pas que l'être humain a évolué depuis... regarde, on a trouvé... on a des pyramides sur la planète. On ne comprend même pas encore comment ils ont été faits. Techniquement, il y en aurait même sur Mars. Il y en a un peu partout dans l'univers. Est-ce qu'on a évolué? Je crois qu'on est barbares aujourd'hui. Les gens se battent encore. Donc, j'aime le mot changement. Je n'aime pas le mot évolution parce que le mot évolution est teinté par la science qui dit qu'on va vers quelque chose de mieux. C'est ça le processus de Darwin. Alors que le changement, ça n'implique pas que c'est bon ou c'est mauvais. T'sais, on change tous, mais tu peux très bien changer des aspects de ta personnalité qui vont devenir meilleurs, mais d'autres qui vont peut-être devenir moins. Donc, dans l'ensemble, on change, mais dire qu'on s'améliore, c'est croire qu'on est imparfait. Moi, je crois que je suis parfait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là.
Mais... Parfait dans nos imperfections.
C'est ça. Exactement. Moi, c'est ça que j'aime. Je trouve que la beauté dans les imperfections, dans le fond, fait que, écoute, ça, c'est mon opinion à moi.
Mais je crois que pour changer, il doit avoir une certaine volonté aussi. Il y a des gens qui ne veulent pas changer. Tu sais, quand on dit plus ça change, plus ça avance, moins ça change. Il y a des gens comme ça qui ne veulent juste pas changer. Ils sont bien avec comme ils sont.
Mais ça, c'est l'homéostasie dont je parlais tantôt. Ce n'est pas nécessairement juste personnel. Hein. L'homéostasie, c'est dans les sociétés, dans les organismes. C'est partout.
C'est quand même très difficile. Pour moi, je suis vraiment entre les deux. Je pense qu'il faut avoir du changement, mais jusque où? À quel point?
Mais pas du changement pour du changement, justement. Il y en a qui vont changer parce qu'ils sont comme des girouettes. Ils changent d'appart, ils changent de blonde, ils changent de chum. Mais
ça, finalement... C'est une peur, là. C'est tout simplement ça. Je pense que c'est une peur de la stabilité, une peur de l'ennui. C'est de l'ennui, dans le fond, peut-être aussi.
Oui, une fuite. Une fuite parce qu'à un certain point, quand tu t'assis, qu'est-ce que le Bouddha a fait? Il s'est assis. Il est parti de chez son père, qui était un roi. Il s'est assis sous un arbre. Il s'est éveillé. C'est un peu ce que j'ai fait. Moi, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai dit non, moi, je ne travaillerai pas. Vous allez me donner l'aide sociale. Puis, quand je vais décider, je vais travailler, mais je ne voyais aucune raison. Donc, pendant 10 ans, je me suis occupé de moi-même. Je me suis trouvé, j'ai fait un travail sur moi-même. Et finalement, ça a fonctionné. Quand on s'assit, qu'est-ce que ça fait? C'est que la poussière tombe. Vous connaissez certainement des gens qui aiment voyager, qui voyagent toujours.
Oui.
Mais ces gens, ils lèvent la poussière toujours. Ils vont arriver quelque part, tout va bien, mais dès que les problèmes commencent à revenir, ils bougent.
Ah, c'est vrai ça.
Moi, ce que j'ai fait, j'ai dit non, je ne bouge pas. Amenez-les. Tous les problèmes, mes défauts.
Faire face.
J'y ai fait face totalement. Et puis là, maintenant, je suis en paix. Je pourrais voyager maintenant parce que j'en ai pas besoin.
Mais je pense que c'est la meilleure façon d'avancer, je crois, de faire face à la réalité de qui qu'on est et de tout ce qui se passe alentour. Je pense que c'est le meilleur remède, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'illusion que si je fais quelque chose de différent, peut-être que je vais être plus heureux. Mais ça ne veut pas vraiment dire. Moi, j'ai souvent changé d'emploi et ça ne m'a pas amené nulle part. Là. J'étais quand même tannée, pareil, là, jusqu'à ce que je me suis dit, le problème, c'est peut-être pas les autres, c'est peut-être moi qui change trop.
Intéressant.
C'est ça qui change trop.
Peut-être. On a l'expression au Québec, hein, changer le mal de place.
Peut-être que c'est aussi à prendre en compte que c'est l'emploi qui n'est la structure même de l'emploi qui n'est pas adaptée à qui tu es. Et ça, on l'oublie très souvent parce que c'est à l'homme ou à l'humain de s'adapter à l'emploi. Mais comme dirait Krishnamurti, c'est pas un signe d'intelligence que d'être bien dans une société malade. Et donc le monde du travail et de l'emploi a cette caractéristique-là, c'est-à-dire qu'on veut des robots, on veut des gens qui aient... Et je veux dire, comment tu peux être bien quand tu as un petit peu un soupçon d'intelligence, de même si tu es bien payé ou même. Je veux dire, t'as quand même une portion de trucs débiles dans cette histoire. Donc c'est pas forcément les autres ou toi, c'est tout simplement peut-être un système ou un contexte qui n'est pas adapté à toi. Alors après, ça, chacun de créer sa réalité pour que ce soit adapté à lui-même et que ça lui corresponde. Une démarche qui n'est pas très usuelle et qui n'est pas très encouragée dans notre société, mais en tout cas, elle mérite d'être mise en œuvre en tout cas.
Et le système est construit pour l'impermanence. Peut-être vos parents vous en ont déjà parlé, mais le frigidaire qu'il avait acheté à l'époque, il durait 25 ans.
Oui, ma mère me dit souvent ça.
Aujourd'hui, 3 ans après, il est croche. Ouais. Les lumières dont on utilise les globes, techniquement, les premiers qu'ils ont inventés, ils sont encore en fonction. Mais maintenant, ce n'est pas payant. Alors, ils font durer quelques mois. Et c'est comme ça qu'on nous inculque l'impermanence dès notre enfance. Alors, quand nous, on a déjà ce sentiment de permanence, moi, je l'ai eu parce que je ne l'ai pas perdu. Parce que moi, quand je suis arrivé au maternel, j'ai arrêté de parler. J'ai comme fermé. J'étais pas autiste, mais j'étais intelligent. Je dis, vous, je comprends ce que vous êtes en train de faire. Mais un enfant ne peut pas dire « je ne vais pas à l'école hein. », il est obligé. Alors j'ai dit « ok, vous allez me forcer, mais vous ne pouvez pas me forcer à parler ». J'ai commencé à parler à l'âge de 12 ans, mais tu sais, je parlais à mes parents, si j'avais affaire à un professeur, je parlais, mais aux autres élèves, je ne parlais pas.
Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de casse, au niveau de l'éducation, parce que tu as beaucoup d'enfants qui sont intelligents ou qui ont d'autres intelligences que celles que l'on voudrait. Voilà, exactement, que l'intelligence académique. T'en as qui ont l'intelligence mécanique, l'autre qui ont plus l'intelligence mathématique.
Et, même des intelligences non catégorisées.
Exactement, des intelligences dans la sensibilité. Enfin, voilà, mais bon, encore une fois, comme on nous veut des personnages formatés et préfabriqués, c'est sûr que si tu rentres pas dans les clous, tu es pas le bienvenu et en tout cas on te sort du truc. Donc après tu vas avoir des enfants où ça va être comme tu disais Nicolas, tu en as d'autres, ça va être consommation de drogue, d'autres ça va être d'autres façons d'exister quoi.
Mais c'est vrai, c'est un fait hein, que je pense que c'est la différence. Lorsqu'on voit surtout un enfant qui ne parle pas beaucoup, on pense qu'il a une déficience, mais ce n'est pas nécessairement ça. Mm-hmm. Il y en a qui sont, je dirais même, plus avancés au niveau psychologique que le professeur. Mais c'est très difficile d'aller au-dessus du professeur quand tu as 7-8 ans.
Oui, mais moi, écoute, moi, c'est vraiment incroyable comment mon chemin de vie, par exemple, moi, quand j'étais un enfant, je comprenais tout ça, tu sais, puis ce que j'ai bien aimé, c'est que quand on est en maternelle, quand on rentre dans nos premières années, cette confrontation-là avec les autres, comment j'ai vécu ça, c'était atroce pour moi, premièrement, puis je me suis dit, ben c'est pas grave, je veux être comme les autres, fait que je vais, tu sais, pas m'inférioriser, mais je veux juste, tu sais, freiner ce que je sais déjà dans mon bagage. Fait que dans le fond, à 25 ans, je comprends que les deux méthodes pour moi, là, pour réussir à faire face au changement, c'est soit que tu rentres en plein dedans, soit que tu t'ajustes. Puis s'ajuster, je trouve que c'est ça qui t'amène le soin dans ta vie. Fait que on va se taiser sur ça pour...
C'est sur ce sage conseil qu'on vous laisse et on vous invite à visiter notre site internet à propos sur lebonheur.com et à écouter nos émissions en podcast sur Radio H2O. Et la chanson sera « La botte ». Il y a bien du changement de « La bottine souriante ».
jamais ce chemin du roi. S'embrassait toujours de là. C'était correct, oui, pour un an. Bien du changement, c'est pas comme dans l'ancien temps. Parfois les garçons veillaient, dans les 10 heures ils s'en allaient. C'est la même chose aujourd'hui, ça veut passer le reste de la nuit. On s'embrasse dans les petits coins, ça veut rester jusqu'au matin. Bien du changement, c'est comme dans l'ancien temps.
Bien du changement, c'est pas comme dans l'ancien temps.
Quand on faisait une veillée, on dansait, on savait bien ça.